Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la matinale. Voici les titres. Depuis la semaine passée, le Mali fait face à une nouvelle flambée de cas de contamination à la COVID-19. Les autorités sanitaires ont annoncé ce mercredi plus de 130 cas testés positifs. Plus d'informations sur le sujet dans ce journal. Le monde célèbre ce 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation. Pour l'occasion, la direction de l'éducation non formelle et des langues nationales révèle que le taux d'alphabétisation au Mali est d'environ 30%. Quelle réforme pour la justice malienne? Des citoyens proposent la désignation des magistrats par un collège électoral pour les rendre plus indépendants vis-à-vis des pouvoirs publics. À la présentation, Mariam Maïga, Mamadi Keïta assure la mise en onde. Je vous le disais dans le titre, le Mali fait face à une nouvelle flambée de cas de contamination à la COVID-19 depuis quelques jours. Ce mercredi 7 septembre 2022, sur plus de 800 tests réalisés, 131 sont revenus positifs. Une situation qui suscite l'inquiétude au sein de la population. Qu'est-ce qui est à la base de cette nouvelle flambée? Des explications avec Aïssa Tadjara.
Depuis une semaine, des dizaines de cas de contamination sont de nouveau enregistrés à travers les pays. Cela après un moment d'accalmie. Selon Dr Ibrahim Diarra, directeur du Centre national d'immunisation, plusieurs facteurs peuvent expliquer ces rebondissements du virus. Il affirme que la quantité de pluie tombée sur le territoire malien ces dernières semaines peut en être une des causes. Car, dit-il, la fraîcheur est beaucoup plus favorable à la contamination de cette maladie. Autre facteur évoqué par les médecins est le faible taux de couverture vaccinale. D'après lui, à ce jour, sur 9 millions de personnes devant être vaccinées, seulement près d'1 600 000 personnes ont été vaccinées. Plus de 500 000 personnes n'ont pas reçu leur deuxième dose. M. Diarra regrette également le relâchement des mesures barrières constatées dans les familles, les services, les lieux de regroupement et même dans les structures sanitaires. Il n'exclut pas non plus la découverte de nouveaux variants de cette maladie. Toutefois, les médecins invitent la population au respect des mesures barrières et à se faire vacciner, car la vaccination est un moyen d'éviter la forme grave de COVID en cas de contamination, ajoute-t-il. Pour rappel, à ce jour, le taux de guérison au Mali est de 96,19% et le taux de décès est de 2,32%.
Toujours sur le même sujet, alors que la courbe de la contamination est ascendante, des malades et leurs proches se plaignent de la qualité de prise en charge de la COVID-19. Celle-ci reste à désirer selon eux. Docteur Aboubakar Sidiki Dramé, point focal COVID-19 à l'hôpital du Mali, affirme que même si le dispositif a été modifié, la prise en charge reste efficace. Il est joint par Aïssa Tadjara.
On a modifié les dispositifs et on a maintenu un moyen de tous les niveaux de prise en charge. Il y a toujours un service de prise en charge. Ils évaluent toujours les maladies qui assurent la permanence 24/24. Donc chaque fois qu'un positif arrive, il y a une évaluation qui est faite. Une fois l'état du malade jugé pas grave, donc ça veut dire que c'est un malade qui peut rester à la maison en prenant son traitement. Mais avec le conseil bien sûr utile, en portant le masque, en gardant la distance avec la famille, et le temps de passer la période d'infectiosité qui peut aller de 5 à 6 jours. Il reste aussi en contact avec le médecin, mais on ne juge pas utile d'hospitaliser quelqu'un qui n'a pas besoin d'oxygène, qui n'a pas besoin de soins aussi intensifs.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Studio Tamani. Du mardi à hier mercredi, l'armée malienne a procédé à des frappes aériennes à Talatay dans le cercle d'Ansongo, rapporte des sources locales. Cette situation fait suite aux violents combats qui ont eu lieu mardi dans la zone. Ces mêmes sources précisent que les heurts ont opposé des combattants des groupes djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et ceux de Al-Nusra MSA. Ces affrontements ont par ailleurs créé la puscose au sein de la population.
Une paix règne à Talataï ce mercredi. La population est prise en otage. La ville est encerclée par des combattants djihadistes selon des témoignages. Des sources locales affirment que des avions militaires ont procédé à des frappes aériennes ce mercredi matin contre des positions djihadistes dans la zone. La cause, des affrontements entre groupes djihadistes qui ont débuté mardi matin et se sont poursuivis jusqu'aux environs de 18h. Ils opposent le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, EC du groupe Al-Nusra MSA. Il y a eu des morts, mais difficile de donner un bilan précis de ces affrontements, nous dit un habitant sous couvert d'anonymat. Il précise en revanche que des combattants du groupe djihadiste EIGS sont visibles dans la ville. Ce n'est pas la première fois que des affrontements de ce genre se déroulent à Talataï. Ces heurts entre djihadistes ont commencé depuis le mois de mars dernier.
Parlons justice à présent. Les Maliens sont quasi unanimes sur la nécessité de réformer la justice. En revanche, leurs avis divergent sur les réformes à faire pour redonner à la justice l'image que les citoyens attendent d'elle. Si certains se montrent sceptiques de voir un jour le pouvoir judiciaire totalement indépendant de l'exécutif, d'autres affirment que cela est bien possible. Ces derniers proposent que les magistrats soient désignés par élection. Ainsi, ils résisteront au pouvoir politique. Le point avec Ali Sissi.
De Kaï à Badjangara, nombreux sont ceux qui affirment qu'il faut rapprocher la justice des justiciables. Selon eux, il faut un collège électoral pour la désignation des magistrats pour empêcher toute pression de la part des politiques.
En réalité, l'indépendance de la justice, ça reste à désirer. Les magistrats relèvent du ministère de la justice et le poste ministériel est éminemment politique. C'est très difficile aujourd'hui vraiment donc de dire que la justice malienne est indépendante. Pour que les magistrats soient autonomes, on peut procéder par élection pour que vraiment ils puissent agir de façon autonome sans l'influence du président ou bien d'un ministre.
Les juristes abonde également dans le même sens. Pour Ibrahim Khalid Touré, juriste, la nomination par l'exécutif d'un magistrat à un poste lui impose un devoir de reconnaissance. Et cette reconnaissance compromet son indépendance.
En lieu de place des nominations, pourquoi ne pas aller vers une élection de magistrats? On a peu de juridiction, on a peu de magistrats. L'injustice ou l'impunité ne peut naître que par l'absence de justice. Et pour qu'il y ait justice, il faut vraiment rapprocher la justice des justiciables.
Tous les experts en droit au Mali sont unanimes. Il faut aller vers des réformes profondes de la justice pour que les citoyens puissent de nouveau faire confiance au pouvoir judiciaire.
Un atelier sur l'initiative africaine pour l'adaptation au changement climatique a débuté mardi dernier à Bamako. Il est organisé par le ministère de l'Environnement. Son objectif est d'élaborer un plan d'action d'adaptation au changement climatique au Mali. Il faut rappeler que l'initiative africaine de lutte contre les changements climatiques regroupe 23 pays africains, dont le Mali. Alassane Ba, directeur général de l'Agence pour l'environnement et le développement durable, est au micro de Lalaïcha Walet Infa.
C'était lors de la COP de Paris qu'il a été décidé par les chefs d'État africains de mettre une initiative dans ce sens-là. Il y a à peu près 23 pays de l'Afrique qui sont dans ce processus-là. Les changements climatiques, c'est aussi une question de développement. Et qui parle de développement parle de tous les secteurs. Il y a des secteurs clés qui ont été définis par le pays. Il y a le secteur de l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche, et tous ceux qui sont liés vraiment à ce secteur-là. Il y a l'énergie, il y a les transports, il y a les infrastructures. Donc, les changements climatiques touchent tous les secteurs.
Est-ce que ces trois ans suffisent pour toucher tous les axes et régler le problème?
Vous le saviez, avec vous aussi, j'ai entendu l'intervention aussi des experts, mais on veut aller jusqu'à 5 ans. Donc, 5 ans, il y a 3 grandes phases qui vont être développées. Il faut faire le diagnostic, l'état des lieux, et pour pouvoir mieux sauter et dégager un plan d'action et aller dans la mise en œuvre.
C'était là Alassane Ba, directeur général de l'Agence pour l'environnement et le développement durable AIDD. Parlons à présent alphabétisation. Au Mali, le taux d'alphabétisation est d'environ 30% et plusieurs difficultés entravent le processus d'alphabétisation au Mali. Révélation faite par la directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales en prélude à la journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année. Au Mali, les autorités annoncent la célébration de la journée pour le 13 septembre prochain. Écoutons Mme Sila Fatoumata Hamma Cissé, directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Elle est au micro de Abdoulaye Touré.
Les couches les plus exposées, ce sont surtout les femmes. C'est les enfants qui sont déscolarisés ou bien les enfants qui n'ont jamais eu accès à l'école. Surtout quand on va vers le monde rural, le taux d'alphabétisation est très bas. Nous sommes à environ 30%. Le constat a été très amer de remarquer que les CED, c'est-à-dire les centres d'éducation pour le développement, sont pratiquement quasiment fermés au Mali. Alors que ce sont ces centres-là qui récupèrent les enfants de 8 à 12 ans qui sont soit déscolarisés, soit n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais ces centres-là ne fonctionnent plus, faute de financement, faute de volonté même des populations à accompagner le processus. Aussi par rapport aux efforts éparpillés des différents acteurs qui sont sur le terrain, mais dont les actions ne sont pas capitalisées par la direction nationale qui a en charge la politique nationale de l'alphabétisation.
Autre titre de l'actualité du jour, le congrès du syndicat national de l'enseignement supérieur SNESUP se tiendra le 15 octobre prochain. L'information a été donnée par l'Alliance des secrétaires généraux du syndicat national de l'enseignement supérieur. C'était au cours d'un point de presse organisé mardi. L'Alliance pour la redynamisation du SNESUP dénonce la non-tenue du congrès depuis 2012. Elle accuse le secrétaire général du comité exécutif national SNESUP de vouloir monopoliser le comité. Docteur Omar Koulibaly, secrétaire général à la faculté Histoire et Géographie, il est au micro de Sally Sissoko.
La redynamisation du SNESUP à travers l'organisation d'un congrès extraordinaire. Et le congrès s'occupera spécifiquement de relire les statuts et le règlement intérieur, mettre en place un comité exécutif national consensuel. L'organisation du congrès permettra de prendre rapidement en compte les revendications en cours, de sortir l'enseignement supérieur de l'inactivité qui le caractérise depuis fort longtemps. Le nouveau comité exécutif national, en toute légalité et légitimité, va conduire les négociations avec les partenaires. L'Alliance des secrétaires généraux pour la redynamisation du SNESUP se désolidarise de tout acte posé par le camarade secrétaire général du SNESUP. Et maintenant, pour la gestion des affaires courantes, une équipe transitoire sera mise en place dans un bref délai avant l'organisation du congrès extraordinaire.
8 heures passées de 11 minutes à Lukao, à Bamako ici, où 9 correspondants et 5 journalistes de Studio Tamani renforcent leurs capacités sur les techniques de reportage et d'interview et de réalisation de magazines. La session a débuté ce mardi 6 août. Pour les responsables de Studio Tamani, cette formation vise à améliorer les compétences de ces agents et correspondants afin de faire des productions radiophoniques de qualité. Reportage signé Moussa Mali Sissoko.
Pour Moussoukoura Konaté, formatrice, cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des participants au genre journalistique radiophonique. La formatrice ajoute que cette session permettra de renforcer la contribution des correspondants aux productions de Studio Tamani.
C'est un renforcement des capacités en reportage, en interview, en magazine, en quelque sorte les grands genres radiophoniques. Donc l'objectif principal, c'est le renforcement des capacités. Ce premier jour, c'est juste un rappel. Et les autres jours, on va procéder en situation réelle de reportage, de réalisation de magazine, d'enrobés, d'écriture de brèves et autres.
Des correspondants venus de 9 localités saluent l'initiative. Cette session est une aubaine, selon eux, pour mieux appréhender la collecte des informations au niveau de leur localité.
En tant que correspondante de Tamani Akati, ça va beaucoup nous aider dans le domaine de la recherche de l'information sur le terrain. Mes attentes est qu'à la fin de cette formation, que je puisse faire des magazines en plus des brèves que nous réalisons seulement.
Pour avoir les meilleures informations auprès de la population à Koulikoro, donc il faudrait nécessairement que nous soyons encore renforcés dans la collecte de l'information sur la technique d'écriture des brèves.
Bon, je crois que ça va changer beaucoup de choses. Tellement de thèmes, tellement de sujets qui devaient être traités à Nord du Sahel, mais que la compétence nous faisait un peu défaut.
Rappelons que cette formation de 5 jours fait partie d'une série de 3 sessions destinées aux journalistes et correspondants de Studio Tamani. 2 sessions auront lieu à Bamako et une autre dans une région.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par la cité des rails où plus d'une centaine de pieds d'arbres ont été plantés dimanche à Soutoukoulé dans la commune rurale de Kouloum, cercle de Kaye. Cette journée de reboisement a été initiée par l'association pour le développement de Badalabougou Soutoukoulé. L'objectif est de lutter contre les effets du changement climatique. Les services techniques ont participé à cette activité. De Kaye allons à Gao où le collectif des artistes de la région de Gao a organisé un concert ce lundi. Ce spectacle visait à soutenir la radio Nata de Gao, ravagée par un incendie le 19 août dernier. Le concert a permis de collecter 103 000 francs CFA qui ont été, la somme a été remise à la direction de la dite radio. Terminons par Ansongo, où le prix du carburant connaît une baisse depuis mardi dernier. Le litre d'essence est passé de 1000 francs CFA à 700 francs CFA, soit une réduction de 300 francs CFA. Chez certains grands revendeurs, le litre d'essence peut même s'acheter à 550 francs CFA. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Mamadi Keita a assuré la mise en onde. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Aissata Diarra. En une semaine, des produits alimentaires ont connu une augmentation. Si certains ont augmenté de moitié, d'autres ont presque doublé. C'est le cas de l'oignon ou encore de la pomme de terre. Si des commerçants déplorent cette cherté, des clients estiment qu'ils ne cherchent qu'à faire que des bénéfices. Reportage signé Lale Tangara.
Au marché de Medinakura, en passant par le marché d'Ibidani, des sacs rouges remplis d'oignons et de pommes de terre sont visibles. Ces sacs proviennent généralement du Maroc, du Sénégal et même de la Hollande pour approvisionner les marchés maliens.
L'oignon du Mali, il n'y en a plus, c'est fini. Maintenant, l'oignon qu'on utilise maintenant, c'est importé. Donc c'est pour cela que c'est très cher, 800 francs les kilos. Parce qu'on achète le sac d'oignon à 16 000 francs.
L'huile est très chère actuellement sur le marché. Le 20 litres est cédé à 23 500 francs. En gros, tandis qu'auparavant, il était vendu à 12 500 francs.
Tout est cher maintenant. Nous, les commerçants, on ne sait plus quoi faire. Les produits locaux se font rares et les importés nous apportent peu de bénéfices.
Des ménagères dénoncent cette situation. Selon elles, malgré cette cherté, le prix de la popote n'a pas augmenté dans beaucoup de familles. Fatouma Tasso, ménagère.
La pomme de terre coûte 750 francs CFA. Il n'est plus facile de prix préparer une sauce d'oignon, surtout quand on gère une grande famille.
Assandaou est vendeuse de légumes au marché d'Ibidani. Elle pointe du doigt la cupidité de certains vendeurs qui veulent gagner plus sur les produits, tandis qu'au niveau des grossistes, les prix sont abordables.
Je vends les légumes frais. Cette année, les légumes sont abordables. Le panier de la tomate est cédé à 15 000 francs CFA. Un sac de concombre est vendu en gros à 4 000 francs. C'est pendant la période des soudures que le prix monte en flèche, à mon avis. Cette conjoncture économique est provoquée par les Maliens. Les Maliens aiment la cherté pour tirer profit. Ce sont les exportateurs qui nous rendent la tâche difficile.
Des vendeurs d'oignons expliquent cette situation par l'insuffisance de l'oignon produit au Mali sur le marché. Le sac de 25 kg d'oignons est cédé actuellement à 16 000 francs CFA, ce qui est déplorable, ajoute-t-il. Mohamed Kouyaté, grossiste au marché Sougounikoura.
L'oignon local n'est pas suffisant, donc ceux importés sont chers, d'où ces problèmes. Nous vendons le sac à 16 000 francs. Il y avait aussi une pénurie de pommes de terre, mais maintenant c'est abondant. Le sac est vendu à 13 000 francs CFA.
Il faut noter que cette augmentation n'est pas qu'au niveau des légumes. Elle concerne également les fruits et certaines denrées de première nécessité. Clients du vendeur demandent aux autorités de réglementer les prix.